c'est avec plaisir que nous accueillons à nouveau Jean-Jacques Jarige. Jean-Jacques, en janvier 2023, le public était très nombreux, très attentif, et on pouvait s'y attendre, car vous parliez du Périgord, et que vous aviez évoqué le Céou, une rivière, un pays. Vous êtes, je le rappelle, docteur en géologie, et très attentif au développement de notre région. Au fil du temps, les énergies nécessaires à l'activité humaine y ont évolué et vont encore évoluer. Eh bien, c'est ce sujet que vous abordez aujourd'hui et nous allons vous écouter. Merci beaucoup d'être là.
Oui, c'est moi qui vous remercie, Madame la Présidente, de m'avoir invité à nouveau. Et je remercie tout le public qui s'est déplacé, nombreux. Alors évidemment, le sujet est un peu plus aride que le Céou. Donc le Céou, je me doutais qu'il y aurait beaucoup de monde. La transition énergétique ou les transitions énergétiques, c'est un sujet un peu plus compliqué. Pourquoi ce sujet ? Parce que, vous le savez peut-être, je suis conservateur de la maison de la pierre sèche et du causse située à Daglan. Je vous signale, j'en reparlerai à la fin, je ferai une petite publicité pour ce site. Cette année, nous avons mis en place à l'étage une zone pour des expositions temporaires en plus de l'exposition permanente. Et donc, il fallait démarrer avec un premier sujet. J'avais plusieurs fers au feu et la région me proposait de faire des choses sur l'énergie. Parce que les deux sujets, les deux thèmes choisis par la région de Nouvelle-Aquitaine cette année, était l'énergie et la santé. Donc je suis effectivement bien docteur, mais pas en médecine. Donc mais santé, je ne savais pas faire. Par contre, énergie, géologie, là, je voyais que je pouvais faire quelque chose. Et comme j'aime bien rattacher tous les thèmes et les sujets à la région et au Périgord noir, j'ai choisi de rappeler au public et de vous rappeler donc aujourd'hui que la transition énergétique dont on nous parle aujourd'hui tous les jours dans les journaux, à la radio, à la télévision et ailleurs, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Toute l'histoire de l'humanité est marquée par des transitions énergétiques et donc c'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. Ce que j'ai essayé de faire, c'est donc de vous rappeler cette histoire que vous connaissez, bien sûr, et puis essayer, d'autre part, de la quantifier, cette énergie, parce qu'on l'entend tellement... Ah oui, ça, c'est le système, d'accord.
Le vôtre ne va pas fonctionner.
Non, le mien ne va pas fonctionner. Non. Et donc, oui, il est important dans cette affaire d'énergie de quantifier, parce qu'on entend tellement de choses énormes dans les journaux, à la radio, à la télévision, qu'il est quand même bien de temps en temps de rappeler des chiffres. Et là, il y a quelqu'un qui le fait très bien actuellement dans les médias, c'est Jean-Marc Jancovici, et on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et là, aujourd'hui, sur l'énergie, il n'est pas question pour moi de vous sortir une doctrine. Moi, je n'ai pas d'avis tranché sur toutes ces questions qui sont horriblement complexes. Chacun se fait son avis, mais l'ami Jancovici, il a un avantage, c'est qu'il amène des chiffres. Donc, on comprend avec lui combien il faut d'éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire, par exemple. Donc, on ne peut pas raconter n'importe quoi, quelle que soit son idée en tant que citoyen. Donc, j'ai essayé de rassembler tout ceci dans cette présentation, qui est en fait, au départ, une exposition, donc, qui est encore en place à la maison de la pierre sèche du Causse, et que j'ai transformée en conférence pour l'occasion. Soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine et soutenue par une association de diffusion de connaissances de l'Université de Bordeaux, qui s'appelle CAPTER. Donc, quelques petits rappels, c'est que tout organisme vivant a besoin d'énergie pour vivre, que ce soit pour croître, pour se maintenir et pour se reproduire. On a constamment besoin d'énergie, Et au moment où je vous parle, j'ai besoin d'énergie pour vous parler et pour me mouvoir devant vous. Donc l'activité humaine, l'humanité, elle s'est toujours appuyée sur des sources d'énergie qu'elle extrait de son environnement, ça a toujours existé, et cette énergie lui permet de fournir un travail. Alors travail, c'est déjà parlé, c'est un travail. Pour certains, c'est pas vraiment un travail, mais c'est vraiment un. On dépense de l'énergie. Et ce travail, en fait, sa définition, c'est l'énergie qu'il nous faut pour, par exemple, pour ce qui est le travail mécanique, pour déplacer une masse, c'est un travail. Et puis la puissance, dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est la capacité ou l'aptitude d'accomplir ce travail dans un temps donné. Là, il y a une notion de temps. Et l'unité de puissance, c'est le watt. Alors, deux petits exemples que j'ai sortis du Shift Project de Zancovici. Par exemple, la puissance des bras, en moyenne, c'est 10 watts. On développe 10 watts quand on agite nos bras. En comparaison, un tracteur, il y a des petits, des gros tracteurs, c'est 60 000 watts. Donc, on voit combien il faut de paires de bras pour remplacer un tracteur. Alors, un autre aspect des choses important, c'est que dans l'humanité, il y a eu donc plusieurs transitions énergétiques depuis les hommes préhistoriques, mais par paresse, on a toujours empilé les énergies, on a toujours remis une couche au fur et à mesure des avancées technologiques, et on va voir que la difficulté de celle de maintenant, c'est qu'on nous demande d'enlever des sources d'énergie. Et ça ne s'est jamais produit auparavant. Et c'est là le challenge d'aujourd'hui. Et on aboutit ainsi, avec ces empilements de sources d'énergie, au bouquet, ce qu'on appelle le bouquet énergétique, c'est-à-dire toutes les énergies qu'on utilise aujourd'hui, que nous connaissons en Périgord noir, en France et dans le monde. Alors, juste petit croquis, pour rappeler quand même qu'on est, comme d'habitude, un pays complètement atypique dans le monde. Il n'y en a pas deux comme nous. Ça, voilà le monde. 80% d'énergie fossile. Charbon, pétrole et gaz. C'est tout ce qui est gris-bleu. Après, il y a un peu d'énergie renouvelable et un peu de nucléaire. Eh bien, nous, ça ne ressemble pas du tout à ça. Nous, on est nucléaire à 35-40%, gaz et charbon, et puis on commence à développer du renouvelable. Donc déjà, nous, on est complètement atypique. Alors, de la préhistoire au XVIIIe siècle, l'évolution, elle s'est faite très, très lentement. Au commencement, évidemment, la force corporelle, les bras, les jambes. Donc, je vous l'ai dit, puissance des bras, en moyenne, on développe 10 watts. Les jambes, c'est plus costaud, on développe à peu près 100 watts. L'invention du feu a permis, depuis 400 000 ans à peu près, à partir de biomasse, donc quand on nous parle de biomasse, c'est pas nouveau, hein, on a toujours utilisé de la biomasse, en fait. Ça a permis à l'homme un apport thermique, parce que pendant les glaciations quaternaires, il ne devait pas faire très chaud dans les abris sous roche. Ça lui a permis de commencer la métallurgie, à forger des métaux, et puis ça lui a permis de s'éclairer. Alors je vous rappelle que jusqu'à l'époque 19e siècle, on s'éclairait ici, à l'huile de noix, avec ces petits outils-là, qui pendaient. Alors ça ne devait pas être très performant, moi je suis trop jeune pour avoir connu, mais je pense que ça devait être très difficile de lire son journal au Cantou avec ce genre d'engin. Alors, à partir du néolithique, c'est vraiment le début de la civilisation, le néolithique, tout change. On commence à avoir un potentiel mécanique, on commence à remplacer les bras et les jambes. D'abord, la traction animale. L'homme commence à domestiquer des animaux. Alors, la puissance d'un cheval. Alors, soit vous prenez un bon percheron, soit vous prenez le cheval de Don Quichotte, ça peut varier de 400 à 1800 watts. Donc déjà, on est dans un autre registre. Alors, les bœufs, vous avez un bel exemple ici d'attelage, comme on en a connu jusqu'au début du XXe siècle. Donc déjà, la traction animale, ça a changé la donne, avec en plus l'invention de la roue qui a permis de transporter. L'énergie éolienne, déjà inventé bien avant Jésus-Christ, les moulins à vent, puissance d'un moulin à vent, alors les plus rustiques, 100 à 200 watts de développement, les plus performants, 1000 à 3000 watts. Donc on est déjà dans des performances qui sont bien, bien supérieurs à ce que pouvait développer un homme. Et puis, ce que l'on connaît bien, alors ici, il n'y a pas beaucoup d'énergie, il n'y a pas beaucoup de boulins à vent, à mon avis, il n'y en a jamais eu beaucoup. Par contre, on a développé l'énergie, les sources d'énergie sur les rivières. Les historiens sont d'accord pour dire que l'énergie hydraulique a été utilisée depuis environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, puissance d'un moulin, 100 à 150 watts, donc pour les premiers, les plus anciens, jusqu'à 5000 watts pour les plus récents. Par exemple, alors je reviens sur le CEU, puisque je reprends des exemples locaux, et donc automatiquement, qui dit énergie hydraulique, pour moi, dit CEU. Au XIXe siècle, il y avait plus de 120 moulins sur la rivière CEU, qui fait à peu près 50 km, 55 km de long entre Montfaucon et Castelnau-la-Chapelle. Et c'est, alors c'est où plus ces quelques affluents, et c'était vraiment les usines de la société rurale. Alors, je vais passer, voilà le c'est où, alors jusqu'à la limite Lot Dordogne, Pontcarral est ici, j'en avais recensé à l'époque 33, oui voilà, sur Lousse et c'est où, et nos collègues du Lot en avaient recensé à peu près une soixantaine, plus 90 sur le CEU et les affluents du CEU côté lotois. Alors, tous ces moulins fonctionnaient avec des roues horizontales sous le moulin. Il y avait très très peu de roues verticales dans la région. Et puis, cette énergie mécanique, mécanique fournie par la rivière, eh bien, elle servait à moudre, d'abord, le grain, les céréales. Elle servait à écraser les noix, faire de l'huile de noix. Elle servait dans les carderies, à nettoyer la laine. Elle servait à activer les soufflets dans les moulines, comme celle, par exemple, qu'il y avait à Gommiers ou celle qui existait à Gros-le-Jacq. Et là, ça permettait aux forgerons d'atteindre des températures beaucoup plus hautes, avec une entrée d'air beaucoup plus forte. Les scieries fonctionnaient également grâce à l'énergie de la rivière. Et donc, c'était vraiment la base de l'énergie dans nos campagnes. Et les moulins étaient appelés les usines de la locale. L'énergie permet également de transporter les hommes et les matériaux, à pied, à cheval, sur la rivière. Pour vous donner un ordre d'idée, Sarlat-Paris en diligence, c'était 12 jours, donc il ne fallait pas être pressé, encore quand tout devient se passer. Et la rivière, Dôme-Bergerac aller-retour, là on est bien calé par les navigations de Gabart, c'est 15 jours aller-retour, et souvent ils remontaient sans le bateau, puisqu'ils le vendaient à l'arrivée, et ils remontaient à pied, bateau vendu sur place. Le problème, c'est que la thèse d'Anne-Marie Cocula l'avait montré, et puis on retrouve ça dans les archives, la rivière était navigable à peu près 200 jours par an. Il ne fallait pas qu'elle soit trop haute, et il ne fallait pas qu'elle soit trop basse. Alors, on ne connaît plus ça maintenant avec les barrages qui existent, qui régulent le débit de l'eau. Mais en gros, par année, c'était à peu près 200 jours navigables. Sur ces bateaux appelés donc Gabart, qui pouvaient venir de la Haute-Dordogne, et qui donc passaient chez nous pour aller atteindre les ports les plus avals. Et à cette époque-là, jusqu'au 18e, l'économie, elle est basée sur les ressources locales. On fabrique, on essaie de vivre et de fonctionner avec les ressources qui sont sur place. Il y a très peu de matériaux qui sont importés. Et deuxième point, qui a bien changé, l'homme organise ses travaux et sa vie en fonction des aléas naturels. Donc il est habitué à subir les aléas de la météo, du climat et d'autres problématiques catastrophiques qui pouvaient arriver, et il s'adaptait, et il adaptait son fonctionnement quotidien et saisonnier à tous ces aléas naturels. Alors, donc cette période a duré relativement longtemps. Et puis, au début, fin 18e, début 19e, tout s'est accéléré très rapidement. D'abord, il y a de nouvelles énergies. Jusque-là, on avait fonctionné donc avec des énergies qu'on appelle maintenant renouvelables et qui étaient mises à disposition naturellement des communautés, le vent, l'eau, les animaux domestiqués, et vont arriver les énergies fossiles. Et ça, ça va être un facteur d'augmentation de la puissance de travail colossale. D'abord, par l'invention de la machine à vapeur. Là, c'est une machine donc, qui transforme de l'énergie thermique en énergie mécanique. Et le moteur est à l'extérieur. Ça fonctionnait encore au bois, on créait de la vapeur, et avec cette vapeur, on faisait fonctionner un système mécanique. Ça a d'abord fonctionné avec du bois, et puis après, à l'arrivée du charbon, on a commencé à faire fonctionner ces machines au charbon, et c'était l'origine de la révolution industrielle. Les premières machines vraiment industrielles ont été inventées par un Anglais qui s'appelait Newcomen, et qui avait inventé une machine qui servait à pomper l'eau dans les mines de charbon, dans les galeries les plus profondes, qui étaient envahies par les eaux, et donc qui empêchaient la production. Ils ont cherché un système pour pomper constamment cette eau, pour permettre aux mineurs d'aller travailler dans le sous-sol, en essayant de pomper l'eau au fur et à mesure, pour pas que les galeries soient envahies par l'eau. Quand on est motivé, on trouve toujours une solution. Dans les systèmes agricoles, évidemment, on a vu arriver également les premières machines à vapeur qui ont commencé à complètement révolutionner la façon de travailler le sol. Machines à vapeur, charbon, on a vu se développer donc les premières lignes de chemin de fer en la deuxième partie du 19e. En Dordogne, la première ligne, c'est celle qui reliait Périgueux à Coutras, ouverte en 1857. Et puis nous, enfin en tout cas, Sarlat, vous n'étiez pas encore relié sur Bordeaux, mais nous, dans la vallée du Céou, on connaît bien le Sarlat, Villefranche du Périgord. Alors, la difficulté d'exercice était, comme d'ailleurs à l'heure actuelle, c'était de mettre tout le monde d'accord sur le tracé de la ligne. Donc ils ont commencé à discuter en 1879, et elle a été mise en service en 1912. Donc, le financement était trouvé, mais ils n'étaient pas tous d'accord sur le tracé. En particulier, les gens de Dôme voulaient que le train passe là-haut. Alors, évidemment, c'était pas la solution la plus facile pour l'ingénieur. Alors, ils inventaient, c'est assez marrant à voir. D'ailleurs, ils faisaient des propositions cartographiques, ils détournaient le tout. Pour éviter la côte, quand même, ils avaient bien compris que c'était un problème de montée. Ils arrivaient en faisant le tour par Gros-le-Jacq. Après, Saint-Martial voulait sa gare aussi. Alors, ils l'ont eu, mais elle est à Foncène, à 8 km de Saint-Martial. Et donc, ils ont réussi à se mettre d'accord en 1879. Et encore, la compagnie d'Orléans qui développait le projet a attaqué la ligne jusqu'à Sénac. En parallèle, ils ont commencé à faire un bout de ligne qui montait à Dôme. Ils ont dû leur dire, aux ouvriers, bon, forcez pas les gars, allez pas trop vite. Et puis quand en fait la ligne, ils avaient démarré de Villefranche, et quand ils étaient quasiment à Foncène et que de l'autre côté, ils avaient les autres venant de Villefranche avec quasiment relié, ils ont dit, bon, en fin de compte, allez, on connecte, et puis là, le bout de ligne Dôme, on oublie. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, le train n'est jamais passé à Dôme. Et donc, le stockage de meules, parce qu'ils voulaient surtout le train pour exporter les meules de moulins, et le stockage a été donc mis à Sénac. Alors, on voit tout de suite l'impact du charbon et des machines. Une locomotive, c'est 1 million de watts. Donc, on ne peut pas rivaliser, hein. C'est-à-dire environ 2000 chevaux, si on compare avec la capacité moyenne d'un cheval. Donc on voit qu'on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et on comprend ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est-à-dire que ça a changé complètement toute la vie des gens et les façons de travailler. Et ça a quand même eu des effets bénéfiques, parce que vous savez qu'on est un pays de fer. Il y a beaucoup de fer dans nos sols. Et un pays sur lequel il y avait beaucoup de forges. Et on disait que le Périgord, c'était le pays le plus métallurgique de l'Ancien Régime. Et il y avait un souci, c'est que ces forges fonctionnaient au bois. Et donc, il s'est trouvé que dans la deuxième partie du XIXe siècle, il était de plus en plus compliqué de trouver du bois pour alimenter les forges. Les maîtres de forges commençaient à se demander où ils allaient chercher le bois. Et en fait, ils ont été, quand ils ont vu arriver le charbon, et puis surtout les lignites, on en reparlera, ça leur a sauvé le fonctionnement de leur forge, et puis surtout, ça a sauvé nos forêts, parce que je pense que s'ils avaient continué à la cadence où ils étaient partis, il n'y aurait eu plus d'arbres dans le département. Donc, le charbon, on en a trouvé, vous le savez certainement, en Sarladais. Et donc, ça a permis de fabriquer, d'abord de fabriquer de la briquette qui était chauffée dans les cuisinières, et puis un combustible de l'argile, vous faites des briques, des tuiles, et puis un combustible et du calcaire, vous faites de la chaux, et avec un petit peu d'argile, vous touillez tout ça et vous faites du ciment. Il faut savoir que le ciment a été inventé par un Français, mais le brevet est anglais, parce que les Français, nous, on travaille pour l'art. Donc quand ils ont voulu construire le pont de Souillac, ils ont eu un gros problème pour implanter les piles. Ils faisaient ça à la chaux, et donc l'ingénieur en chef, qui s'appelait Vica, lui, a tenté des mélanges mélangeant la chaux et l'argile, et il a trouvé le mélange idéal, et qui a permis de couler les piles, enfin couler, il coulait pas, il bâtir les piles du pont de Souillac. Mais bon, il est passé à autre chose, et un Anglais, vous savez bien, l'Anglais, toujours un peu fourbe, il est rentré en Angleterre, et lui, il a déposé le brevet Ciment Portland, et donc le ciment est une invention anglaise. Non, mais je dis fourbe, je les aime bien. Sauf au rugby. Donc, il faut se rappeler donc de cette épopée des charbons du Sarladais, avec deux grands sites. Celui que je connais le mieux, c'est la chapelle Péchaud-Cladèche. Donc là, en 1878, il y a une concession qui est prise par des notables du Sarladais. C'était des gens, il y avait beaucoup de notables en Sarladais qui avaient de l'argent, qui avaient envie d'investir et qui donc tentaient différentes aventures industrielles. Ils ont tenté la pierre lithographique, les ocres, le lignite, le fer. Et donc ici, à Troyes, ils se sont associés pour développer un gisement de lignite. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est que le lignite, c'est un charbon très très mal... c'est la première étape de transformation de la matière organique en charbon. Donc c'est un très très mauvais charbon, très soufré, et avec beaucoup de résidus à la combustion. C'est ce que développent les Allemands actuellement pour remplacer leur centrale nucléaire. Pour vous donner le... Donc c'est pas une très bonne idée, à mon avis. Enfin bon, très mauvais charbon, très riche en soufre. Et donc, par contre, à l'époque, ils étaient très contents, ils trouvaient un combustible qui leur permettait de développer l'industrie. Donc là, c'est un petit dessin, un peu fantasmé quand même, parce que de l'Antillac qui a dessiné, j'en ai sélectionné une, mais il y en a quatre ou cinq en fait. Il a photographié donc le site en cours de construction. Là, ils sont en train de bâtir, ils ont bâti déjà les quatre fours à chaux. Là, ils sont en train de faire les fondations de plusieurs bâtiments. Et alors là-haut, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce château qui m'a mis là? En fait, j'ai vu l'autre jour, en repassant avec une excursion, j'ai vu qu'en fait, quand on montait vers Vérines, on voyait les Milandes au loin. Donc, il a remis les Milandes dans le paysage. pour que ça fasse un peu plus relevé. Et donc, je pense que ce sont les Milandes. Et là, c'est le site en 1900, au moment où le... Alors, ces développements, c'était très chaotique. Ça fonctionnait avec les cycles, déjà avec les cycles économiques. Donc, quand il y avait une demande de lignite, eh ben, il y avait des paysans des alentours qui venaient travailler à la mine. Quand le coût du charbon redescendait, ben, ils arrêtaient la mine, ils passaient à autre chose. Ou alors quand il y avait une guerre ou quand il y avait une crise, ils arrêtaient. Et puis quand les coûts remontaient, ben, ils repartaient, ils relançaient la mine, ainsi de suite. Donc c'était très chaotique. Mais il a quand même travaillé jusqu'à plusieurs dizaines, voire la plus grosse production, en fait, c'est en 1890, 1900 tonnes. Et c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que les Allemands ont redéveloppé toutes les productions charbonnières en France, parce qu'ils avaient besoin d'énergie. Ils transformaient d'ailleurs le charbon en pétrole avec leur système allemand. Et donc la première partie, pendant toute la guerre, des locaux ont travaillé dans les mines de La Chapelle pour échapper au STO. Parce que l'ingénieur en chef avait trouvé un système pour les planquer là pour pas qu'ils soient envoyés en Allemagne. Et puis à la libération, ce sont les prisonniers allemands qui ont travaillé dans les mines jusqu'à leur retour dans leur pays. Et donc la production s'est terminée en 1950, à peu près 70 ans, c'est pas si vieux. Donc ça, c'est une vue en 1900. Donc les fours sont là. D'ailleurs, si vous passez à Merle, ça, c'est le carrefour juste après Cladèche de Merle. Et vous montez vers La Chapelle, Vérines, par cette route. Il y a un peu plus de maisons, là, mais pas beaucoup plus. Là, ce sont les fours qui sont là. Il y en a 6 maintenant. Il y a 6 gueules de fours. Et là, c'était la briqueterie qui n'existe plus, qui a été démolie. Et donc, c'est une usine qui fonctionnait très, très bien, qui faisait travailler pas mal de monde. Et là, c'est Simeyrolles, donc un peu plus près de Sarlat. Pareil, début 1856, milieu du XXe siècle pour la fin de l'exploitation. Et là, c'est une carte postale qui montre les mineurs dans une galerie. C'était toujours plus ou moins bien étayé. Et surtout, la problématique, c'est qu'il c'était très peu enfoui. Donc, ils travaillaient sous 3-4 mètres de couvert. Et sous très souvent, la partie du toit de la galerie s'effondrait. Et donc, ils étaient pas les mineurs, mais les directeurs étaient en bisbille avec les paysans locaux qui râlaient d'abord parce qu'ils avaient des trous qui apparaissaient dans leurs champs de temps en temps. Et puis, que la problématique du lignite, c'est si vous le laissez, comme il est très souffré, si vous le laissez en tas à l'extérieur, avec l'humidité, il s'enflamme. Et donc, il y avait des fumées, ça devait pas être très, quand même, très agréable à vivre autour des terrils. Donc, il y avait des grosses discussions. Alors, si on avance dans le temps, fin 19e, donc on invente le moteur à combustion interne, cette fois-ci. La combustion se fait dans le moteur. Et là, cette combustion, elle est associée aux hydrocarbures, elle est associée au pétrole. Et on invente le véhicule automobile. Alors là, c'est une... Alors il faut savoir quand même, c'est qu'en même temps, on a inventé le moteur électrique. À la même époque. Et puis, à un moment, il y a eu concurrence. On dit que Madame Ford roulait en voiture électrique, parce que les dames aimaient bien ça, parce qu'il n'y avait pas de problème de manivelle avec une voiture électrique. Ça démarrait au quart de tour, alors que pour lancer le moteur à combustion, il fallait tourner la manivelle. Donc les femmes aimaient bien la voiture électrique, toujours précurseur, ces dames. Et par contre, j'ai pas trop creusé le sujet, on a abandonné la voiture électrique, peut-être il y a eu un lobbying, je ne sais pas, et c'est le moteur à combustion qui l'a emporté et puis qui a explosé. Et le transport routier, comme le train avait tué la diligence, et ben la route a tué le train. Enfin, l'a fortement ralenti, on l'a pas complètement tué, mais l'a fortement ralenti, et ça continue toujours d'ailleurs, parce que le transport routier est bien plus développé que le transport ferroviaire. Et puis Le corollaire, c'est que les échanges commerciaux, à ce moment-là, explosent. La campagne s'ouvre aux économies extérieures et c'est un grand chambardement dans les pays ruraux. C'est la fin de l'autarcie des campagnes, on peut dire. Jusque-là, les gens vivaient à peu près avec ce qu'il y avait autour. Ils allaient rarement chercher plus loin les choses dont ils avaient besoin. Et à partir du moment où la route a commencé à supplanter le train, ça a été terminé, les circulations se sont faites, les produits manufacturés ont commencé à arriver sur les marchés, et ça a été le début, ça avait commencé bien avant, mais ça a été l'accélération de la mondialisation. Alors pour les amateurs de deux chevaux, une deux chevaux c'est à peu près les premières 6000 watts et les dernières 21 000, un camion c'est 400 000 watts, donc si on compare avec une paire de bœufs, évidemment, avec un camion, on avance quand même plus vite quand on veut déménager quelque chose qu'avec une paire de bœufs. Pour ce qui est d'éclairage, fin 19e, dans certaines villes, c'était le cas à Sarlat, j'ai vérifié, il y avait des lampadaires à gaz, mais c'était un gaz manufacturé. C'est-à-dire qu'on prenait du charbon, surtout du charbon d'ailleurs, et on manufacturait du gaz. Et il y avait souvent aux entrées de ville, ça existait à Sarlat, il y avait un gazogène où on stockait le gaz. Pardon ? Une usine à gaz. Oui, usine à gaz, oui. Comme son nom l'indique, oui, oui. Qui porte bien son nom d'ailleurs. Oui. Donc tout ça a complètement disparu, puisque maintenant le gaz qu'on utilise, c'est du gaz naturel, extrait du sous-sol et qui est transporté par tuyau, ou qu'on liquéfie pour transporter sous forme liquide. En campagne, par contre, nous sommes restés très longtemps. On avait quand même abandonné les chalets à l'huile de noix, mais les gens fonctionnaient à la lampe à pétrole, et ils ont fonctionné pendant très longtemps à la lampe à pétrole, avant l'arrivée des premières lignes électriques. Alors, dans les mi-20e siècle, on découvre du gaz dans le sud-ouest, c'est en particulier le lac, évidemment. Énorme gisement de gaz à l'échelle mondiale. Et là, le gaz commence à circuler en réseau et puis en bouteilles de gaz qu'on a connues dans notre jeunesse et qu'on connaît encore aujourd'hui. Il y en a moins, mais ça existe encore. Côté transport, les premières voitures. Donc ça, il y a deux cartes postales superbes. Campagnac les Quercy, je suppose que les notables venaient montrer leur voiture le dimanche. Il y en a deux, là, deux magnifiques bagnoles, hein, décapotables, sur la place de Campagnac les Quercy. Et puis notre pauvre train, lui, il n'a pas passé les années 30. À la fin, paraît-il, il n'y avait plus que 1 à 2 passagers. Donc il était plus rentable, donc la ligne a été arrêtée, elle a été remplacée par un autocar, et un des chauffeurs que j'ai connu, il s'appelait M. Béinet, il faisait la ligne, ses filles habitent toujours à Daglan, c'est elles qui m'ont donné la photo, et là il est en attente à Sarlat, de départ. Donc le grand changement, c'est que les renouvelables qui étaient locales, qui étaient disponibles sur place, elles ont été remplacées au 19e par des énergies fossiles qui, en grande partie, étaient importées quand même. Et cette transformation, ce changement a permis de développer la mécanisation, des puissances de travail 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois supérieures à ce qu'on faisait auparavant. Et ça a complètement modifié l'économie mondiale et la société rurale. Alors juste un petit clin d'œil pour vous dire que pour alimenter, et c'est le cas encore aujourd'hui, toutes ces machines, il faut des hydrocarbures, et on en a cherché même en Périgord. Voilà, l'essor sarladais, mars 1957, se pose la question, va-t-on trouver du pétrole à Campagnac, les Quercy ? Effectivement, et une compagnie américaine qui a planté un derrick à côté de Campagnac les Quercy, voilà, dans l'année 1957. ce n'était pas compliqué. Les géologues foraient toutes les bosses du sous-sol. On n'avait pas les outils adaptés pour bien imager ce qui se passait sous nos pieds. On n'avait pas encore les avions, on en parlait à midi. Et donc, dès qu'on voyait qu'il y avait une voussure, hop, on forait. Et donc, accompagné avec l'éclaircie, effectivement, il y a une belle voussure qui est assez grosse. Et comme toutes les bosses existantes en France et en Europe, ça a été foré. Et le puits a été un échec. Il n'y a pas eu de découverte ni de gaz ni de pétrole. Il y a eu d'autres, à Sauveterre-la-Lémance également, il y a eu un autre forage. Bon, enfin, ils ont tous été voués à l'échec. Les seules zones qui se sont bien développées, c'est le nord des Pyrénées et le bassin de Parentis au sud de Bordeaux. Alors, toute cette mécanisation, elle a un impact colossal sur la société rurale. C'est d'abord l'abandon des terres peu favorables, parce qu'il y a certaines zones trop pentues ou trop caillouteuses, les nouvelles machines ne passaient pas. Donc on abandonne ces terres. Là-dessus, il faut rappeler qu'il est passé le phylloxéra qui a tué toutes les vignes. Donc les vignes, toutes ces terres n'ont pas été replantées et donc elles n'étaient pas exploitables pour d'autres cultures. De nombreuses petites exploitations ont disparu. Beaucoup de familles ont migré. Et puis surtout, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans les fermes. C'est la fin des ouvriers agricoles. Donc la fin des petits emplois et des gens qui partent à la ville. Donc pour rappeler des notions de puissance, un tracteur 60 000 watts, c'est à peu près 600 paires de jambes. Donc on ne fait pas le même travail avec un tracteur qu'avec des hommes, même costauds. Alors, autre changement important, vers la fin 19e, on invente la lampe à incandescence, l'ampoule, Edison, et puis d'autres aux États-Unis. Et ça, c'est en fait le début de l'électricité, vraiment le début de l'électricité comme énergie secondaire. Alors, une énergie secondaire, c'est une énergie que l'on fabrique, comme le gaz manufacturé tout à l'heure, contrairement à une énergie primaire qu'on trouve dans l'environnement. Donc on vous dit actuellement on va tout remplacer par l'électricité, mais il faut la fabriquer, cette électricité, avec quelque chose. Alors d'abord, cette électricité elle est produite par des centrales thermiques, on en a parlé, charbon, surtout du charbon. Il en reste deux en France, que M. Macron veut fermer, mais qui fonctionnent de manière très intermittente quand il y a un besoin. Enfin, ce ne sera pas très difficile d'arrêter le charbon en France. Il n'y en a quasiment plus d'utilisation. Et puis ensuite, après les centrales thermiques, on commence à construire des grands barrages sur les rivières. Et là, la Dordogne est une rivière, c'est le deuxième réseau hydrographique de France. Dordogne est affluent pour ce qui est des barrages et des productions d'électricité. Alors il y a les barrages, les grands barrages de la Haute-Dordogne qui produisent jusqu'à 240 millions de watts. Donc là, on est quand même dans des fournitures d'énergie assez puissantes. Et puis, il y a des plus petits barrages qui sont d'ailleurs plus anciens en fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne barre pas complètement la rivière, on la détourne, on fait passer dans un canal et on turbine l'eau qui passe dans le canal. Et l'étuilière, qui est juste avant la Linde, après Trémola, qui a été construit en 1906 avec, à l'époque, une puissance de 18 millions de watts. C'est déjà pas mal. Et on parlait de l'électrification. Dans la vallée du Céou, elle est arrivée que l'électricité que dans les années 30. Et certains hameaux, moi j'avais des cousins au Combou, ils ont eu l'électricité en 1950-52 par là. Avant, ils s'éclairaient toujours à la lampe à pétrole. Et ces machines électriques, également, elles vont transformer complètement toutes les usines locales, en particulier les moulins qui deviennent des minoteries. Les meuniers n'ont plus besoin de ce qui reste, en tout cas. Ils n'ont plus besoin de l'énergie hydraulique. Ils font tourner les moulins à grains à l'électricité. Alors, on arrive au début du XXe siècle, on se rapproche de notre époque, et là, et on a commencé à voir qu'il y avait quand même un petit problème. Alors, on n'a pas trouvé tout seul. On a été aidé par la guerre du Kippour. qui a entraîné un choc pétrolier colossal. Les pays producteurs ont décidé de, je ne me souviens plus, doubler ou tripler le prix du baril de pétrole. Alors ça fait rigoler parce que l'essence coûtait 80 centimes, elle est passée tout d'un coup à 1,60 francs, c'est-à-dire 0,40 centimes d'euros, quoi. Ça fait un peu rêver aujourd'hui. Mais enfin, ça a été une révolution. Alors là, tout le monde a sauté au plafond et on dit c'est pas possible, on peut plus vivre, c'est trop cher. Bon, et donc, et c'est à partir de là qu'en France, on a développé l'énergie nucléaire. Et avec le slogan, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et donc, notre système réseau nucléaire est parti de la politique, en particulier de Giscard d'Estaing, après le choc pétrolier, parce qu'il fallait réagir pour équilibrer la balance commerciale qui était plombée par les achats d'hydrocarbures. Deuxième problème, on s'est rendu compte que les hydrocarbures, c'est une énergie fossile, c'est pas illimité la ressource. Alors on sait maintenant qu'il y a encore de la marge. Le problème maintenant, c'est qu'on sait qu'au point de vue physique, la ressource, il y en a pour plus d'un siècle, voire peut-être deux. Le problème, c'est à quel prix on veut le payer. Si on augmente le prix, on ira le chercher plus profond, plus loin, et on aura donc du pétrole plus cher, donc de l'essence plus chère. Ce n'est pas un problème de réserve, c'est un problème physique, c'est un problème économique, à quel prix on veut payer, en particulier l'essence, ou on peut payer l'essence. Autre problème, c'est qu'on a commencé à se rendre compte que les gaz à effet de serre, en particulier le gaz carbonique, dans l'atmosphère, avaient augmenté. Et donc, les gens ont fait un lien entre la combustion des hydrocarbures, toutes nos industries et l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et puis, on a commencé à voir un réchauffement global de la planète, qui, en fait, ceux qui ont lu la thèse de Leroy Ladurie, a commencé début 19e siècle. Il est très bien calé, lui, parce qu'il a étudié les dates de bande vendange. Et il l'avait étudié en Bourgogne. Il y a une étude faite dans le Bordelais plus récemment qui donne exactement le même résultat. À partir de 1800, je ne sais pas si vous savez, mais les dates de début des vendanges étaient contrôlées par les autorités locales, soit le seigneur, soit les ecclésiastiques, puisque toutes les terres leur appartenaient, en fait. Et c'est eux qui décidaient de la date de début de la vendange. Et c'était transcrit sur papier. Donc on sait exactement par village et par région les dates de début de vendange chaque année. Et il s'est aperçu, en reprenant les archives, que ces dates de début de vendange, à partir du début du XVIIIe siècle, étaient de plus en plus tôt. Donc ça veut dire réchauffement climatique global. Et c'est la fin de ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire des règnes de Louis XIV, Louis XV, qui avait provoqué des famines colossales en France et en Europe. Donc, en fait, réchauffement global de la planète, alors il y a des gens qui ont dit, les géologues en premier d'ailleurs, ont dit, mais attendez, la Terre, mais les variations climatiques, elle en a connu tout le temps. Là, je vous ai reconstitué. Alors méfiez-vous parce que l'échelle change ici. Là, on est en millions d'années, 60 jusqu'à 10, puis après on passe non plus en dizaines, mais en unités, et puis après on passe en milliers d'années, et puis après on passe en années. Donc il faut faire la petite gymnastique intellectuelle, l'échelle horizontale se contracte quand on va vers la gauche. Donc vous voyez qu'à 60 millions d'années, il faisait 15 degrés de plus qu'aujourd'hui en moyenne sur Terre. Et puis à partir de 40 millions d'années, la température s'est refroidie, elle est passée sous le zéro actuel, et c'est là qu'on a connu les périodes glaciaires. La mise en place des calottes glaciaires au pôle Nord et au pôle Sud, ça date à peu près de 30 millions d'années, et puis après ces cycles, toutes les périodes glaciaires qui ont enduré tous nos aïeux hommes préhistoriques. Et puis voilà le petit zizi là, c'est la courbe complètement remise à l'échelle du reste de la période 1850-2000. Et ce qu'on voit quand même, c'est qu'elle décolle drastiquement. Donc là, il y a quand même un petit problème, c'est que ça monte très très vite. la température. C'est assez rapide et donc les gens font un lien, les scientifiques maintenant sont à peu près tous d'accord pour faire un lien entre les émissions de CO2 anthropiques et le réchauffement global. Il y a encore des discussions, mais c'est certainement une partie de du problème, si ce n'est pas toute la partie du problème. Alors, des exemples pour vous amuser des changements climatiques. 50 millions d'années, chez nous, en Périgord, ça devait ressembler à ça, je pense. Une forêt tropicale humide, comme au Cameroun aujourd'hui. On en trouve les traces végétales, on trouve les sols latéritiques. C'est là-dedans que les gens ont exploité les ocres, comme à Saint-Pompon. Le fer vient de ces sols rouges qu'on voit quelquefois en bord des routes quand on circule. On a des sols très très rouges, orangés, bruns, voire quelquefois très rouges sanguins quand on va vers Rouffignac. Et ça, ce sont des sols qui datent de l'époque 50-60 millions d'années. Et puis par contre, au Quaternaire, les périodes glaciaires, ça devait ressembler à ça. Ça, c'est la steppe sibérienne, avec peut-être le Céou, là. Et alors là c'était on était en période très froide, donc une faune complètement différente et des problématiques de survie encore complètement différentes. Et dans ces périodes de gel-dégel, le géologue vous rappelle qu'on formait à ce moment-là, les roches étaient cassées par le gel et il se formait ces dépôts qu'on appelle en français des grèzes et que chez nous on appelle des castines. Ce qu'on mettait sur le chemin, on s'en mettait plein les pieds. Hein. Et on rentrait chez nous, on se faisait engueuler par nos parents parce qu'on foutait partout, avant la porte du goudron. Donc, ça vous le savez. Un petit rappel, le GIEC, donc, qui est l'organisme mondial qui fait une synthèse périodiquement de toutes, enfin pas toutes, mais de grande partie des publications scientifiques. Ces recommandations ont débouché sur l'accord de Paris 2015. Alors j'ai marqué proposé, vous pourrez marquer recommandé, vous l'interprétez comme vous voulez, mais l'idée c'est de maintenir l'augmentation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés. Alors, il y a un petit codicille marqué, ce serait mieux même 1,5. Enfin 1,5, on sait que c'est déjà trop, on n'y arrivera jamais. Hein. Et cette différence de 2 degrés, c'est par rapport aux températures d'avant l'histoire industrielle, c'est-à-dire mi-19e siècle. Alors la hausse de la température globale, on peut discuter son origine, il y a encore des discussions, c'est encore très ouvert, mais la problématique, ça on en est sûr, c'est que la glace va fondre, en particulier en Antarctique, donc le niveau des océans va monter, ça c'est sûr. Et ici, il y a une petite étude qui a été faite par les Hauts-de-France. Ils doivent commencer à se poser des questions pour les côtes. 1956, 2018, c'est déjà monté de 10 cm. Donc ça va relativement assez vite. On prévoit 0,5 à 2 mètres plus haut en 2100. Bon, ici on a de la marge, je vous rassure tout de suite. Et puis un autre souci, c'est que quand même ces canicules ou ces périodes de forte chaleur ont un impact quand même sur la santé des populations. Et donc, il faut essayer de faire quelque chose. Alors là, c'est un petit crowbar qui montre ici les émissions globales de gaz carbonique en millions de tonnes par an. Ici, les dates. Ici, voilà, les émissions historiques telles qu'elles sont mesurées. Si on ne fait rien, on continue sur cette courbe. Et si on veut appliquer l'accord de Paris, et ben voilà la pente qu'il faudrait prendre. Donc c'est du rêve complet, hein. Bah, pas à mon avis, personnellement c'est du rêve complet. Mais enfin il faut essayer de tendre quand même vers cette courbe. On est actuellement en 2023, on sait qu'on est au-dessus. Et une grosse partie de cette baisse, le meilleur impact, c'est quand même la réduction de l'utilisation des énergies fossiles. Alors, il faut les recommandations, c'est réduire notre consommation d'énergie, ça tout le monde peut le faire. Augmenter l'efficacité énergétique, ben, c'est ce que vous entendez constamment à l'heure actuelle dans les médias, et le gouvernement essaie de débloquer des crédits pour aider les gens à le faire dans leur maison. On va voir que ça a quand même un coût. remplacer les énergies fossiles par des sources d'énergie à faible émission de gaz à effet de serre, en particulier surtout le charbon, qui lui est redoutable au point de vue CO2. Alors nous, on ne peut plus faire d'efforts. Le charbon, on a plus que deux centrales qui fonctionnent de manière très intermittente. Il faut savoir que les Chinois, ils en construisent 300 par an. Donc, bon, on peut essayer de se scrimer de notre côté par rapport à ce qu'ils font, eux. Ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, il faut le faire, mais franchement... Alors, j'ai essayé de lister avec des exemples dans la région. Pour décarboner, il faut employer des énergies, la Palice l'aurait dit, sans gaz à effet de serre. Le seul problème, c'est que la plupart de ces énergies, elles ont une densité énergétique plus faible que les énergies fossiles. Ça battra jamais un litre de pétrole, c'est impossible. Au niveau densité énergétique, production d'énergie par rapport au volume, c'est imbattable le pétrole. On n'arrivera jamais à faire mieux. Ah, sauf le nucléaire, on va dire, pour certains, oui. Et puis, le renouvelable est à la problématique d'être intermittent. Et donc, il faut des stockages d'énergie ou une énergie d'appoint. Donc, la première énergie, c'est le soleil. Et là, on revient à des énergies utilisées par nos ancêtres. Le soleil. Donc là, on s'en sert pour produire de l'énergie, surtout de l'électricité et du chauffage. La Palice l'aurait dit aussi, ça ne fonctionne que le jour. Donc, il faut stocker une énergie relais pour si on consomme trop la nuit. Et puis, un gros développement, en particulier dans le sud-ouest, c'est de développer des panneaux solaires et de cultiver sous les panneaux solaires. C'est ce qu'ils appellent l'agrivoltaïsme. Je crois qu'il y a un projet qui est quasiment achevé, qui va être lancé près de Périgueux. Bon, alors, il faut voir, un panneau solaire, c'est 300 watts. Donc, si vous vous rappelez des puissances que je vous ai données précédemment, il y a quand même un souci. Alors, il y a des gens, quand même, ici, c'est sur la commune de Campagnac, qui est des agriculteurs qui installent d'énormes panneaux, qui en plus tournent avec le soleil. Ça, c'est Spati Raguet. Il a un ensemble de 15 000 watts, c'est déjà énorme, et qui fonctionne très bien, qui lui fournit son énergie pour toute sa ferme, et il revend le surplus dans le réseau. La deuxième énergie, c'est la biomasse, vieux comme le monde. On brûle de la matière vivante, c'est-à-dire des végétaux, et pour produire soit de la chaleur, soit de l'électricité. En Dordogne, aujourd'hui, il y a 43 chaufferies. Il y en a 37 qui sont prévues à partir de biomasse. La problématique, c'est qu'on va être limité par la ressource. Parce que si vous regardez dans nos coteaux, on coupe du bois partout à l'heure actuelle. Alors qu'avant, on ne voyait pas une coupe. Si on va à cette cadence, dans 15 ans, il n'y a plus un arbre. Enfin, ou dans 20 ans. Donc il va y avoir un souci quand même. Et puis, ça produit quand même pas mal de poussière. Et puis, quand on brûle du bois, on produit du CO2. Alors, il y a le méthaniseur. Ça, c'est celui de Marcillac et Saint-Quentin qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Donc là, on fait fermenter de la matière organique. On produit des biocarburants, du biogaz. C'est un processus local qui permet de recycler des déchets agricoles. C'est neutre au point de vue CO2, puisque les plantes ont absorbé du CO2 pendant leur vie, qui est rejeté après, donc la balance est nulle. Mais on vient en concurrence avec des activités agricoles, c'est-à-dire que la biomasse qu'on brûle ici, elle n'est pas utilisée pour nourrir les animaux ou même pour nourrir les êtres humains. Donc il faut faire un choix. L'hydraulique, pareil, énergie vieille comme le monde. En France, tous les sites de barrages ont été exploités, les grands barrages. Donc tout ce qui reste, c'est du petit ouvrage au fil de l'eau, plus ou moins gros. La puissance d'une turbine, c'est entre 20 000 et 200 000 watts, suivant qu'on reprend, comme c'est le cas ici, on met une turbine dans une chambre de roue de moulin. Ça, c'est à Daglan, l'ancien quart d'heure de Daglan, et ça fait 30 ans qu'il produit son électricité, lui. Il a enlevé sa roue horizontale, il a mis une turbine, et il produit son électricité depuis très longtemps. Alors vous voyez que elle est un peu couverte de calcaire, parce que le CO est très chargé en carbonate, mais ça marche très bien, Et donc, il y a des petites boîtes en Corrèze, par exemple, qui commencent à racheter les vieux moulins et installer des turbines dans les anciennes chambres de roue. Et ça fait des petites productions électriques locales, et ça marche assez bien. L'autre solution, c'est un peu les shaddocks, c'est-à-dire quand il y a déjà un barrage, quand on produit beaucoup, alors c'est pas le cas en Sarladais, mais on peut le faire en Haute-Dordogne, quand on produit beaucoup d'électricité et qu'il y en a en surplus, on pompe de l'eau, on la remonte dans un lac un peu au-dessus, et puis quand on a besoin de produire l'électricité, ben on relâche l'eau et on la turbine. C'est les shaddocks. On pompe et on pompe et on eau. Et ça marche très bien, simplement il faut le déniveler. L'éolien, on parle beaucoup d'éoliennes pour produire l'électricité en terre ou en mer. Évidemment, c'est intermittent puisqu'il faut qu'il y ait du vent, donc, par définition. Et par contre, il ne faut pas que le vent soit inférieur à 15 km/h parce que l'éolienne ne tourne pas. Et après 90 à l'heure, bah, si elle tourne, elle est complètement déglinguée. Donc il faut l'arrêter. Donc à Daglan, on a une station météo qui enregistre tous les paramètres météo. J'ai regardé 2022, on est rentré dans les clous pendant 117 jours. C'est-à-dire si Daglan avait pris son électricité au niveau d'une ou deux éoliennes, eh ben, on aurait fonctionné 117 jours. Puis le reste du temps, il aurait fallu faire différemment. Alors la puissance d'une éolienne, c'est entre 2 et 3 millions de watts, entre 2 et 3 gigawatts, mégawatts par contre pour le terrestre, 6 mégawatts pour les marines. La géothermie, alors en France on la développe pas trop, c'est dommage parce que ça marche très très bien. On utilise la radioactivité naturelle de la Terre. Puisqu'il y a la radioactivité, c'est naturel. Il y a des zones très radioactives comme le Limousin, par exemple. Là, on a une source de chaleur naturelle. C'est pas intermittent. Il y en a partout. On peut produire de la chaleur et l'électricité pour la géothermie profonde. Alors tout le monde connaît. Il y en a peut-être qui ont ça chez eux. Des boucles de basse énergie, des réseaux capteurs dans le sous-sol. Associer une pompe à chaleur, ça permet de chauffer la maison. On peut faire la même chose en forant plus profond pour un immeuble. Et puis, on peut même, si on fore un peu plus profond et de l'eau un peu plus chaude, 90 degrés, on peut forer même un quartier. Ça existe avec Mériadec à Bordeaux. La fac de Bordeaux est chauffée à la géothermie. En gros, la température augmente de 3 degrés par 100 mètres. Vous pouvez faire le calcul. Ici ce sont des cartes de potentiel géothermique en Aquitaine. Quand c'est vert, c'est bon. Vous voyez que nous on est bien placé pour faire de la géothermie en Périgord. Le nucléaire, alors là j'ai pas d'exemple local, heureusement on va dire peut-être, donc j'ai été chercher la centrale du Blayais. Alors le nucléaire, ça produit l'électricité, ça n'émet pas de CO2. Une des problématiques, c'est que ce n'est pas du renouvelable, parce qu'il faut de l'uranium, il faut aller le chercher, c'est une ressource du sous-sol. Alors la densité énergétique est imbattable, il y a une continuité de production, donc on dirait, ben alors là c'est super, alors, c'est le truc génial. Petit problème, il y a quand même une dangerosité associée, et puis il y a le problème de gestion des déchets, où là on peut discuter. Donc en France, il n'y a pas eu, jusqu'à présent, les centrales ont quand même un certain âge, il n'y a pas eu d'accident majeur, mais il en existe quelques-uns dans le monde. Donc c'est une énergie à très fort potentiel, mais qui demande à être gérée. Alors là, vous voyez qu'en puissance, il n'y a pas photo, 900 millions de watts, en puissance de tranche, vous pouvez aligner des éoliennes pour faire la même chose. Vous n'avez qu'à calculer, vous faites le calcul avec la puissance d'une éolienne et vous arriverez pour une tranche nucléaire à 200 ou 300 éoliennes marines pour remplacer une tranche. Donc si vous voulez les prendre chez vous, personne ne les veut, hein. C'est ça le problème. Alors qu'est la centrale nucléaire non plus. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle les énergies secondaires, c'est-à-dire qu'elles sont obtenues par transformation d'une énergie primaire. Donc il faut de l'énergie primaire pour les fabriquer. Alors, à l'heure actuelle, c'est celles qui sont privilégiées au moins pour le transport du futur. Alors, l'électricité, on peut la faire à partir de charbon, de gaz, de pétrole, un barrage, enfin le nucléaire, la géothermie, l'éolien, tout ça peut faire, les panneaux solaires, on produit l'électricité. On a juste trois petits problèmes pour un véhicule, c'est l'autonomie, parce que là, il faut des batteries. Les batteries, c'est très lourd. Et puis, alors, bonjour, comme usine chimique, alors là, ceux qui ne veulent pas polluer, une batterie, c'est que de la chimie. Il faut que les véhicules restent à un prix abordable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça va certainement évoluer. Et puis après, il faut produire de l'électricité. Et pas cher. Parce que si en plus on vous la vend cher, si on arrive au prix du baril, c'est pas là, du litre d'essence, eh ben on n'a pas gagné. Alors l'autre idée, c'est l'hydrogène. Alors là, c'est la grande mode, l'hydrogène, à l'heure actuelle. Il y en a qui font tout avec de l'hydrogène. Alors c'est vrai que ça a une forte densité énergétique, mais il y a un petit problème, c'est que pour avoir un kilo d'hydrogène, il faut 11 mètres cubes. Donc vous voyez le stockage. Tandis qu'un kilo de pétrole, c'est un peu plus d'un litre, c'est tout petit. Donc il y a un léger problème. Après, ce qui est bien, c'est que l'hydrogène remélangé avec de l'oxygène, c'est la pile à combustible. On fait l'électricité et on rejette de l'eau. Donc ça, c'est super. Mais pour ces problèmes de volume, il y a un stockage qui est problématique parce qu'il faut le comprimer. Donc pour le comprimer, il faut dépenser de l'énergie. Donc si vous essayez de sauver de l'énergie à la sortie, mais que vous la mettez dans le système au départ, c'est pas très rentable. Et puis c'est quand même assez dangereux, l'hydrogène, le transport est complexe. Donc à mon avis, c'est plutôt adapté aux flottes de véhicules, mais l'avenir le dira. L'hydrogène actuel, il est fabriqué, il est manufacturé, on hydrolyse de l'eau, il est fait à partir d'hydrocarbures, de biomasse, avec apport d'énergie. Alors il y en a actuellement qui travaillent sur l'hydrogène natif, c'est-à-dire de l'hydrogène qui est créé naturellement dans le sous-sol par hydrolyse de minéraux riches en fer. Alors je vous parle, comme on est ici en Périgord, je vous ai présenté ça. Ça c'est un brûlé brésilien. Alors vous voyez qu'on est un peu des amateurs à côté de nous avec nos troupières. Hein. Parce que là ça fait 300 mètres de diamètre. Là. Et ça c'est la végétation qui est brûlée par des émanations naturelles d'hydrogène. Il y en a une ici, il y en a une deuxième là. Et donc, il y a des gens qui travaillent à l'heure actuelle sur comment capter cet hydrogène pour essayer d'en faire une source d'énergie. Le problème, c'est que c'est très diffus et il faut le stocker pour que ça devienne économiquement rentable. Alors, là, je ne suis pas en avance, comme d'habitude. Alors, on a un petit souci encore, il faut dire un plus, c'est que pour faire une transition énergétique avec du renouvelable, il va falloir beaucoup de métaux. Et beaucoup de métaux divers et variés. Ici, vous avez un petit schéma du BRGM qui est pas mal. Vous voyez que pour faire fonctionner un moulin, je ne vous rentre pas dans les détails, mais il faut à peu près 5-6 métaux. Pour faire fonctionner une machine à vapeur, il en faut une petite dizaine. Une bagnole, il en faut une trentaine. Une éolienne, un panneau solaire, il en faut bien une centaine. Et je ne vous parle pas d'un smartphone. Alors là... Et alors, tous ces métaux, en général, ce sont des métaux rares et chers. Donc, automatiquement, on va quitter la dépendance pétrole et on va rentrer dans la dépendance minière. Alors, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Il nous faut du cuivre, parce qu'il faut des réseaux électriques, des éoliennes, il faut du cuivre. Il faut du fer pour les voitures électriques, les éoliennes. Il faut de la silice, parce qu'un panneau solaire, c'est de la silice. Donc il faut trouver de la silice, il faut du lithium, il faut du graphite, du nickel, du magnésium, du cobalt pour faire les batteries. Et encore, j'ai résumé. Et alors les terres rares, c'est tous ces métaux avec de grosses aptitudes électromagnétiques qui sont très utilisés dans les éoliennes, les panneaux solaires et les moteurs électriques. Et là, Et se rajoute à ceci la transition numérique, le smartphone en est un bon exemple, qui demande encore en plus d'autres métaux rares. Et donc, il nous faut des nouveaux réseaux, des composés électroniques, et il faut qu'on stocke nos données. Et tout ça, il faut trouver des métaux. Et en France, vous savez que les mines sont interdites. Il est interdit d'ouvrir une mine depuis une quinzaine d'années. Déjà, on n'en avait pas beaucoup, mais cette fois, maintenant, c'est interdit. Donc, on importe. Alors, du coup, moi, j'ai appelé cette slide « Une nouvelle dépendance aux ressources minérales ». On va y passer. Hein. Alors, comment on peut faire? Il faut recycler un maximum, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est déjà commencé, mais ce ne sera pas suffisant. Puisqu'on recycle, le rendement n'est pas à 100%, donc on en perd. Et comme on en a toujours besoin de plus et que la population augmente, par définition, il faut en trouver ailleurs. Sécuriser les approvisionnements, puisqu'on ne veut pas de mine en France, c'est un choix, hein, c'est un choix citoyen, on ne veut pas de mine en France, ok? Donc il faut l'acheter, les métaux, ailleurs. Le problème, c'est que voilà les grands pays. Donc, les États-Unis, ça va. De temps en temps, on est fâché, mais pas trop souvent. Le Brésil, ça commence à être aléatoire. La Chine, alors là, n'en parlons pas. La République démocratique du Congo, c'est compliqué. Il reste l'Afrique du Sud et l'Australie et les États-Unis pour se fournir de manière sécurisée en grands métaux. Donc l'Europe, ça c'est une figure de l'Europe. En Europe, ils travaillent sérieusement à sécuriser les métaux. Et la troisième hypothèse, c'est redévelopper des projets miniers. Ah, c'est très compliqué. Évidemment, personne ne veut une mine à côté de chez lui. Moi non plus, d'ailleurs. Mais il faut bien que quelqu'un s'y colle, quand même. Et ça, c'est l'extraction de silice, de tédirac, d'émeris, qu'on voit pas dans le paysage, d'ailleurs, parce que il faut vraiment passer dessus pour l'avoir. Et là, c'est un très, très gros producteur de silice. C'est le plus gros en France. Donc, en résumé, je conclue là-dessus. En fait, on nous parle de transition énergétique comme quelque chose de complètement nouveau. Mais non, il y en a toujours eu, des transitions énergétiques. La seule différence, c'est qu'à chaque fois, on a gardé les anciennes énergies, on en a remis des nouvelles. Et on a continué comme ça, on en a abandonné parce que c'était plus économique ou plus compliqué, mais on a toujours gardé les anciennes. Mais maintenant, la différence, c'est qu'on veut réduire l'impact des activités sur le climat, donc il faut enlever des énergies, et le problématique, c'est qu'on enlève les plus performantes, les fossiles. Donc ça devient très compliqué. On nous parle même d'abandonner les énergies fossiles. Alors moi, j'y crois pas. J'ai du mal à voir comment on va faire. Enfin, à court terme, en tout cas. Hein. Il faut être plus sobre. Il faut en consommer moins, ça, c'est évident. Il faut travailler sur l'efficacité énergétique, donc ces logos qui sont apparus sur tous nos matériels de ménagers et sur l'isolation des maisons. Il faut absolument être très efficace en énergie. Tout ce qui n'est pas dépensé n'est pas à produire. Et puis, on bascule vers un tout électrique. Ça veut dire qu'il faut augmenter la production nationale d'électricité. Il faut la doubler d'ici 2050. Il va falloir en planter des éoliennes et des panneaux solaires. Moi, je pense que ça va être compliqué. Alors, c'est une discussion entre nous, hein, mais techniquement, ça va être compliqué. Donc, ça va être des défis compliqués, parce que, on l'a vu, les énergies renouvelables ont une densité énergétique faible. Il faut beaucoup de métaux. Les renouvelables sont intermittentes, sauf la géothermie et le nucléaire, mais qui n'est pas vraiment une renouvelable. Donc il faut développer des réseaux électriques intelligents et des sites de stockage. Pourquoi des réseaux électriques intelligents? Parce qu'avant c'était simple, il y avait une grosse centrale nucléaire, on faisait partir des gros fils de la centrale, ça partait en arborescence dans la campagne, et tout partait d'un point unique. Maintenant, tout le monde se met à produire l'électricité un peu partout. Donc il faut qu'il y ait des systèmes intelligents qui, à un moment donné, disent non, on va chercher l'électricité sur le parc d'éoliennes à Bouzic. Non, maintenant, on va aller chercher le réseau sur la Dordogne, le barrage des Tuilières. Là, il n'y a plus d'eau aux Tuilières, donc on va basculer sur les panneaux solaires de Tintel. Donc, il faut constamment gérer la production, sans parler du fait qu'est-ce qu'on aura une seule société qui produira tout ça ou plusieurs. C'est même sûr qu'on en aura plusieurs. Donc, on va avoir des boucles locales d'énergie. On y va tout droit. Et donc, automatiquement, il faut gérer. Il y a ce qu'on appelle des réseaux intelligents, smart grid en anglais. Il faut constamment gérer les sources pour aller au plus performant, à celui qui est capable de produire au moment T. Et il faut rajouter, certainement, on rajoutera au moins cher. c'est à peu près sûr. Et alors, ça va poser, à mon avis, un problème social, parce que imaginez que Saint-Pompon ait des éoliennes qui tournent et que Daglan ait une panne de panneaux solaires, est-ce que Saint-Pompon pourra bien passer de l'électricité à Daglan? C'est pas sûr. C'est un exemple tout à fait au hasard. Donc, ça, moi, je pense que ça va poser un problème sociétal majeur. Personne n'en parle, mais si on arrive vers un système très délocalisé, ça va être un sujet intéressant. Alors, je ne vous parle pas des investissements, parce que souvent, on en parle. Il y a M. Pisani-Ferry, que je ne connais pas. Lui, il nous a annoncé 70 milliards d'euros par an, jusqu'en 2035. Alors, ce n'est pas une paille, hein, 70 milliards d'euros par an, en France. Hein. Donc, vrai problème. Après, il faut se rappeler qu'un choix énergétique, ben, ça crée des nuisances, ça c'est automatique, même un panneau solaire. Une prise de risque, parce qu'il peut arriver une problématique, et ça crée automatiquement une dépendance, ne serait-ce que par les métaux. Et puis on est tous bien d'accord pour dire qu'on veut de l'énergie partout et pas cher. Voilà. Donc, ça va être compliqué, moi, je pense, en Périgord comme ailleurs. Voilà, j'ai fini. Alors évidemment, vous avez compris que je restais technique, historique, mais chacun fait ses choix en tant que citoyen. Chacun a son avis, il est respectable. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'avais une petite page publicitaire. C'est plus consensuel, quoique. Donc, à Daglan, donc, existe l'association Maison de la Pierre Sèche et du Causse, qui a un site d'exposition qui réunit maintenant les problématiques, enfin, pas les problématiques d'ailleurs, les présentations du Causse, qui est un patrimoine naturel. Une partie des coteaux sont classés Natura 2000. Et les constructions en pierre sèche liées à l'eau vignoble, dont l'art de la construction en pierre sèche est inscrit depuis presque 10 ans maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà le site, dans le village de Daglan, l'exposition en extérieur, l'exposition en intérieur, les deux permanentes, et ça c'est la première exposition temporaire cette année, avec les panneaux qui correspondent à l'exposé que je viens de vous faire. Il existe des excursions, certains d'entre vous dans la salle en ont déjà profité. Ça peut être des excursions sur le patrimoine, ça peut être des excursions sur la biodiversité. Jean-Claude Martegout, spécialiste de botanique, et Corinne Marliac, spécialiste d'orchidées, du Causse, sont là pour organiser des excursions. Et moi, j'organise des excursions sur les paysages et la géologie. Voilà une ici. Certains se reconnaîtront. Et voilà, et je terminerai avec ça. C'est la dernière page publicitaire. C'est que cette année, nous avons un projet au budget participatif du département. C'est le projet 153. Et que l'idée, c'est de bâtir à pierre sèche et en lauze de récupération un four pour créer un lieu de partage sur le site de Daglan. Et puis la construction sera une transmission de savoir-faire, puisqu'elle sera faite par des apprentis dont les patrons voudraient qu'ils redéveloppent des compétences en couverture en lauze. Donc on a une... Voilà, et puis ça permet également de sauvegarder le patrimoine. Donc je vous rappelle, et ce sera mes derniers mots, que vous pouvez voter en mairie, il y a une urne dans toutes les mairies de Romande-Dordogne, ou en ligne pour les plus doués, enfin je vais dire doués, ceux qui ont le plus de patience, parce que c'est un peu long quand même pour voter, sur le budget participatif, et c'est le 153, et après vous pouvez voter pour 3 projets, donc les 2 autres, je vous laisse libre de votre choix. Voilà.
Il n'est pas là, Michel Chanot ? Ça l'intéresse beaucoup, les pierres sèches. Oui, ah, ça y est, il y a des questions, je le vois. Bon.
Alors, je ne suis pas sûr de savoir répondre à toutes les questions.
Merci.
Je ne suis pas compétent en tout, là.
Merci tout d'abord pour ces précisions techniques et scientifiques très utiles. Je n'ai pas vu l'épisode du gaz de schiste.
Ah oui, d'accord, ça, c'est celui-là.
Dans la région. Qu'en est-il?
Il n'y a pas d'épisode pour moi. Non, non. Oui. Les gaz de schiste, c'est un potentiel. À mon avis, en France, il est très faible. Et, par contre, aux États-Unis, oui, j'en vois qu'ils font ça, mais enfin, ça, c'est des avis de techniciens. On n'est pas toujours d'accord, c'est normal. Mais par rapport aux enjeux, c'est relativement faible. Par contre, les États-Unis, ils ont foncé sur les gaz de schiste et du gaz de réservoir très compact. On confond les deux souvent. Mais il y a le gaz de schiste, effectivement. Pourquoi ? Parce que d'abord, la terre, le sous-sol appartient au propriétaire aux États-Unis. Et donc, les gars, dès qu'ils voient l'opportunité de gagner un peu d'argent, eh ben, il y en a certains qui disent « Bon, ben, écoutez, venez forer chez moi. Vous me donnez un petit loyer et puis vous me payez au mètre cube de gaz qui sort et puis ça lui fait un petit revenu. Ça lui fait un revenu. » Quoi qu'il en soit, ils ont produit du gaz de schiste. Il faut forer beaucoup, beaucoup de puits. Ça produit pas très longtemps. Il faut constamment forer. Et l'avantage des États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup de pipes de gaz. Donc on peut se connecter assez près de l'endroit où on fore. Et puis quand le prix du gaz baisse, ils ferment les robinets, ils attendent un petit peu. Et quand le prix du gaz augmente, ils réouvrent les robinets et reproduisent. Et ce qui les a bien aidés, c'est l'entrée de Poutine en Ukraine. Parce que la France, comme beaucoup de pays, ont coupé les approvisionnements de gaz russe, parce que les Allemands ont tout misé sur le gaz russe. Les Français, on avait deux gros projets en Sibérie de gaz liquéfié. Et donc, couper ça du jour au lendemain, il a fallu remplir les cuves de gaz en France. Et donc, on s'est tourné vers l'oncle Sam. On lui a dit, écoutez, vous avez du gaz. Donc, le gaz qu'on utilise en France aujourd'hui, c'est du gaz de schiste américain, liquéfié dans les usines de liquéfaction américaines et qu'on apporte en France. Mais je ne vous ai rien dit.
Non, c'était la question. C'était... je voulais vous demander aussi l'énergie par les ordures ménagères. Il y a certaines villes, oui, qui sont équipées. Et on a beaucoup d'ordures, de plus en plus.
Oui.
Donc, je voulais savoir si c'était viable ou pas.
Oui, oui. Alors, il y a un certain nombre de villes en France qui ont déjà installé des usines pour brûler les déchets depuis très longtemps. Alors, tout ce qui est biomasse, il n'y a pas trop de problèmes. Après, brûler du déchet, il faut trier. C'est ça qui est compliqué. Et c'est parce qu'on n'est pas très fort. Moi, le premier, je me fais engueuler par ma femme tous les jours. On ne met pas toujours le déchet dans la poubelle jaune, verte, bleue.
Si, moi, je le fais.
Moi, j'ai encore du mal. C'est pas toujours très clair, la liste. D'ailleurs, votre pot de yaourt, machin,
non,
est-ce qu'il faut
c'est
le mettre
là ? C'est pas clair. T'as raison. La liste n'est pas claire.
C'est bon, mais enfin, il faut le faire. Et donc, ça simplifie beaucoup le fait de brûler derrière. Et puis après, quand on brûle beaucoup de déchets, il faut que les cheminées des centrales soient équipées de filtres pour capter toutes les poussières et le CO2, parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Si on diffuse autant de CO2 derrière. Donc, c'est en cours d'être installé. Et c'est un bon moyen. On va le rentrer dans la biomasse au sens large. Oui, oui. Mais c'est valable surtout pour les villes, parce qu'en campagne, c'est compliqué de collecter. Mais le département de la Dordogne le fait par les... Alors après, tout le monde a un avis sur les nouveaux systèmes de collecte d'ordures. Non, je ne vais pas rentrer dans le débat non plus.
Oui, moi, je n'ai pas de questions. J'ai juste une remarque. Vous avez parlé de Jean Pisani-Ferry en disant que vous ne le connaissiez pas. Bon... Moi, je le connais très bien parce que j'étais en classe avec lui et il n'aurait pas aimé que vous écorchiez son nom. C'est pour ça que j'interviens.
Ah, pardon, excusez-moi.
Et parce que c'est écrit P-I-S-A-N-I. Il n'y a pas d'Y.
Ah, ben oui, j'ai mis un Y. Ah, ben non, mais je. Oui, mais vous avez raison. Ben oui, je. Ma main voulait mettre un i, mais c'est mon subconscient qui a mis l'y, oui. Là, vous avez raison, je vous remercie, je vais le corriger, oui, oui. Merci.
Deux petites remarques concernant les énergies renouvelables. Moi, j'ai une passion particulière pour le soleil, dont je considère qu'il est à l'origine de toutes les énergies.
Oui, c'est vrai.
On est d'accord. Actuellement, on parle de récupérer l'énergie du soleil par des panneaux.
Oui.
Il existe une technique très simple. Quand j'étais gosse, mon grand-père me lavait le soir avec le tuyau d'arrosage qu'il avait laissé dans le jardin toute la journée en été. Et on avait l'eau chaude, sans cellules, sans terre rare, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a l'été et l'hiver, mais en France, on est un des pays où j'ai jamais vu des réservoirs en haut des maisons pour avoir un peu d'eau chaude.
Vous avez raison, c'est un oubli.
C'est court.
Parce que j'aurais dû mettre le solaire également dans l'eau chaude.
Oui.
Parce qu'il y a des, il y a des serpentins.
Bah oui.
Oui, le seul problème, par exemple, nous, à Daglan, si un serpentin, il va fonctionner 6 mois, parce que l'eau, il faut un adoucisseur devant, et vous allez boucher. Mais vous avez raison, c'est un très bon système pour faire de l'eau chaude.
Voilà.
Je suis tout à fait d'accord.
Bon, je reviens pas sur le four solaire qui est dans les Pyrénées, qui démontre
Ordeo, oui.
Qu'on peut, avec le soleil, faire autre chose que des panneaux solaires, quand même.
Oui, alors là, on est les inventeurs, d'ailleurs, du four solaire. Il y a un léger défaut, c'est qu'il faut un liquide caloporteur et que la région Provence-Côte d'Azur avait lancé un très gros projet de centrale solaire. Ils étaient tous contents. Et puis quand ils ont reçu la faisabilité, ils ont vu qu'ils étaient classés Céveso plus haut niveau. Parce que le liquide caloporteur qui capte l'énergie solaire et qui la transporte, en général, c'est un produit chimique qui n'est pas très agréable. Et donc, quand ils ont vu que ça classait le système, l'installation Céveso niveau sécurisé haut, ils ont tout arrêté. Mais c'est très performant, vous avez raison.
Et puis, un dernier rêve, c'est l'histoire des petites centrales au fil de l'eau.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est quelque chose qui est renouvelable, qui n'arrête jamais, et qui paraît très simple. Et il y a
Avec le CEU, c'est plus...
Ouais, enfin...
Mais vous avez raison.
Franchement, si on avait consacré tout l'effort d'énergie, de recherche du nucléaire sur ces techniques à partir soit du soleil, soit de l'hydraulique, on ne serait quand même pas dans le même caca.
L'hydraulique, on n'est pas dans la grandeur des besoins.
D'accord.
Parce que si on met une petite turbine sur chaque moulin, il y a des gens qui le font encore en Haute-Vienne, j'ai vu d'ailleurs, il y a une boîte qui fait que ça. Elle achète des moulins, elle met des petites turbines, mais par rapport aux besoins que l'on prévoit, si on met tout électrique, on est loin, on n'est pas dans les ordres de grandeur. Mais c'est toujours ça de prix, vous avez raison, c'est toujours ça de prix, c'est vrai.
Pour récupérer de l'eau chaude.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on le fait pour la France ?
Il y a des gens qui l'ont.
Mais
on pourrait le faire. Mais ça n'a jamais été promu, oui, c'est vrai. Mais ça peut être fait, tout à fait.
Ça a un gros inconvénient, c'est que ça n'est pas un élément qui rentre dans les grands circuits industriels.
Non, c'est vrai.
C'est quelque chose qui est tellement petit hors des grands circuits économiques que ça ne peut pas avancer.
C'est vrai.
Ne peut avancer que quelque chose. Des entreprises, des groupes, etc.
Vous allez avoir affaire à un emmerdeur, surtout l'anthropocène. Surtout, n'hésitez pas à lui couper la parole.
D'accord.
Je préfère que vous le fassiez.
Mais vous pouvez le faire pour chauffer votre piscine, par exemple. Ouais. Si vous avez une piscine. Oui, une dernière question. Oui.
Ah. Oui, merci pour...
Allez-y, je vous écoute.
Oui, merci pour cette jolie exposé et les balades que vous nous avez faites faire à la fois en Périgord et de temps en temps dans le monde. Et alors, je pense que dans votre exposé, on sent bien deux choses. La première, c'est qu'il y a une dimension locale à toutes ces problématiques. Et puis, vous nous avez dit à un moment, les Chinois, ils construisent 300... centrale thermique.
300, moi, je ne sais plus le chiffre exact.
Et donc, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'une partie des centrales thermiques chinoises travaillent pour fabriquer nos biens. Et donc, il y a dans cette problématique-là, aussi une responsabilité quand on achète des choses qu'on importe. Et la deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est À la fin, quand vous avez présenté votre conclusion, vous nous avez montré les grands défis qui sont devant nous, ils sont indéniables. Et je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit juste avant. Il y a aussi, beaucoup de rentes qui sont créées. Par exemple, quand on dit on n'aime pas les smart grids, c'est parce que c'est les outils de la production décentralisée et on avait une production qui est très centralisée. Et donc je pense que dans ces réflexions, il y a aussi à avoir la réflexion sur les rentes quoi, qui doivent bouger ou les curseurs doivent bouger. Voilà.
Bien sûr. Bon.
Oui, il est pris à côté.
Alors je lui ai demandé, mais je l'ai noté, mais je ne l'ai pas en tête. Mais je lui ai demandé au propriétaire.
Oui, Jean-Jacques, merci pour ton intervention. Alors, ce que je voudrais rappeler, moi aussi, c'est que le poids de l'empreinte carbone de la France, c'est 1% du mondial. L'Europe, 10%. Nous devons être vertueux. Mais il en reste 90% dehors.
Bien sûr.
Voilà. Et lorsque on parle d'installer des panneaux solaires partout, la technologie des cellules, je ne parle pas des panneaux, je parle des cellules, elle est en Chine, elle n'est pas chez nous.
Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, oui. Je suis d'accord avec toi.
Merci de cette excellente remarque. Bon, alors, on va applaudir, mais je voudrais dire quelque chose que j'ai oublié. Le comité culturel de Sénac-Saint-Julien, représenté ici par nos amis, nous invite le mercredi 4 octobre à 20h30 en salle socio-culturelle à Sénac et Saint-Julien à une conférence sur Jean-Guillaume Taillefer, député de la Dordogne, qui vota pour la mort du roi Louis XVI, permet d'ajouter sans condition. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Cette conférence sera présentée par Jean-Jacques Despont, président de la Société d'art et d'histoire de Sarlat et du Périgord noir. Voilà. Voilà. Et bien maintenant, on applaudit.
Bon, merci.